D'été de France Culture, votre rendez-vous en direct de 7h à 9h. Aujourd'hui, dans la première partie des matins d'été, nous recevrons Joseph Maïla, professeur de sciences politiques, docteur en philosophie, en sciences sociales, spécialiste de l'islam et de la sociologie des conflits. Il nous racontera son parcours, il nous aidera à mieux comprendre la place des religions dans les conflits. Il nous expliquera ce qui fait la grande spécificité des conflits identitaires. Nous parlerons également du pôle religion du ministère des Affaires étrangères dont il a pris la direction le 1er juin dernier. On en parle avec lui dans quelques minutes. Politique, religion, conflit identitaire, ce sera également le thème de la deuxième partie des matins d'été, puisque nous traiterons des partis politiques palestiniens. Le congrès du Fatah s'est ouvert hier à Bethléem, sous la houlette de Mahmoud Abbas. Que peut-on en attendre? C'est la question que nous poserons à Jean-François Legrain, qui est chargé de recherche au CNRS, affecté au groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée de Lyon. Ce sera à partir de 8h15. Bienvenue dans les matins d'été, votre rendez-vous matinal sur France Culture qui accompagnera vos matins jusqu'au 28 août prochain. Vous êtes sur France Culture, il est 7h. Le journal vous est présenté par Nicolas Balu. Bonjour Nicolas.
Bonjour Florian, bonjour à tous. Cette information, tout d'abord, une tuerie ce matin aux États-Unis. 5 personnes sont mortes et une quinzaine d'autres blessées près de Pittsburgh en Pennsylvanie. Un homme a ouvert le feu dans une salle de gym à une quinzaine de reprises. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. La visite de Bill Clinton en Corée du Nord aura été courte et efficace. L'ancien président américain ramène de Pyongyang les deux journalistes dont il cherchait la libération. Laura Ling et Una Lee. Les deux Américaines avaient été condamnées à 12 ans de prison en juin dernier pour avoir franchi la frontière sans autorisation. Bill Clinton est actuellement sur la voie du retour aux États-Unis et déjà, la presse s'interroge, mais comment a-t-il fait, Valérie Cantier?
Qu'a obtenu la Corée du Nord en échange de la libération des deux journalistes? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui après le succès de la visite surprise de Bill Clinton à Pyongyang. L'agence de presse officielle nord-coréenne affirme que Bill Clinton a transmis à Kim Jong-il un message de la part de Barack Obama. La Maison-Blanche dément formellement, affirmant qu'il s'agissait d'une visite strictement privée. La même agence de presse affirme également que Bill Clinton a présenté ses excuses au président nord-coréen pour le comportement des deux journalistes. La Maison-Blanche ni personne d'autre ne confirme l'information. Des voix s'élèvent ici. Côté républicain, certains conservateurs affirment que cette mission avait sûrement aussi pour objectif de discuter du programme nucléaire nord-coréen, peut-être même d'accéder à la demande du gouvernement nord-coréen d'être traité comme un acteur international majeur. En tout cas, en recevant un personnage aussi prestigieux que Bill Clinton, la Corée du Nord a déjà gagné, au moins en réputation, et l'agence de presse officielle nord-coréenne écrit « Cette grâce témoigne de la politique humanitaire et éprise de paix de la République populaire démocratique de Corée. »
Le couple Clinton est décidément très actif. Hillary Clinton commence un périple de 11 jours sur le continent africain. La secrétaire d'État américaine doit mettre l'accent sur la lutte contre la corruption et les relations commerciales entre le continent et les États-Unis. Hillary Clinton qui est arrivée hier soir au Kenya. La police et les milices sont déployées ce matin à Téhéran. Mahmoud Ahmadinejad prête serment ce matin. Il risque de se sentir bien seul. Ni ses prédécesseurs, ni les ambassadeurs n'assistent à la cérémonie. Et le clergé reste divisé par sa désignation. Le nouveau président doit prononcer un discours très attendu. Tension en Nouvelle-Calédonie. Des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont fait une trentaine de blessés hier. À l'origine, un conflit au sein de la compagnie aérienne Aircal et une grève de l'Union syndicale des travailleurs kanak et des exploités, l'USTKE. Et depuis, les blocages et les heurts se multiplient. Le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Yves Dassonville, a appelé le syndicat à revenir à la raison. Olivier Besancenot, au contraire, a amené son soutien, a porté son soutien à l'USTKE et dénoncé les violences policières. Ils se sont installés sur le site du futur aéroport du Grand Ouest, entre Nantes et Rennes, aéroport prévu en 2015. Pendant toute la semaine, des opposants vont se succéder, mais pas seulement, sur le thème du transport aérien. Des conférences sur les OGM, des débats, des concerts sont organisés par des associations écologistes ou du monde alternatif. L'idée de ce camp Action Climat, c'est également de prendre contact entre militants avant le grand rendez-vous international de la fin de l'année, la conférence sur le climat à Copenhague en décembre prochain. Alors qu'est-ce qu'un camp Action Climat? Réponse avec Martial Cure.
Ces camps climat sont nés en Angleterre en 2006. Cette année, une vingtaine sont organisés à travers le monde. Organiser, c'est beaucoup dire. L'autogestion et le consensus dans la prise de décision sont les règles. Les participants, il s'agit d'individus, mais pas d'associations, s'engagent à laisser une empreinte écologique minimale. Comprenez, une gestion des déchets la moins polluante possible et une autonomie énergétique poussée. Quatre thématiques y sont développées. L'élaboration d'actions directes et non violentes contre les crimes climatiques, le développement d'alternatives au mode de vie actuel, l'éducation avec des ateliers et un échange de savoir et la construction d'un mouvement international pour une justice climatique. Notre-Dame-des-Landes accueille le premier camp Action Climat en France. 1500 à 2000 participants sont attendus. Ils doivent mettre au point des actions destinées à empêcher la construction de l'aéroport.
Selon le quotidien Les Échos ce matin, une partie des crédits dédiés au plan de relance serait redéployée vers 42 opérations nouvelles. Au total 100 millions d'euros, c'est le patrimoine qui devrait bénéficier des crédits pour les nouveaux chantiers. Le temps aujourd'hui devrait ressembler à celui d'hier en plus chaud et en plus beau, excepté en Bretagne et en Basse-Normandie. Les températures iront de 19 degrés dans l'ouest à 36 dans le sud-ouest ou dans les Bouches-du-Rhône. Il est 7h05, c'est l'heure de retrouver Florian Delorme pour les matins d'été.
Merci Nicolas Ballu, on vous retrouve pour le journal de 7h30. Hier, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a ouvert à Bethléem les travaux du congrès du Fatah. Le premier depuis 20 ans, personne ne peut décider seul, a-t-il lancé à destination de ses rivaux du Hamas, qui depuis près de 2 ans maintenant contrôle la bande de Gaza. Quels sont les enjeux de ce rassemblement? C'est ce que nous tenterons de comprendre dans la deuxième partie des matins d'été avec Jean-François Legrain, qui est chargé de recherche au CNRS, affecté au Grémo de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée de Lyon. Mais pour l'heure, recevons notre premier invité du jour. Joseph Maïla, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques, docteur en philosophie, en sciences sociales. Vous êtes un spécialiste de l'islam et de la sociologie des conflits. On va en parler avec vous. Vous êtes l'ancien recteur de l'Institut catholique de Paris et vous êtes le nouveau directeur du pôle religion du ministère des Affaires étrangères, Joseph Maïla.
Absolument.
Et j'indique que vous êtes auteur, entre autres, de Manhattan à Bagdad, au-delà du bien et du mal avec Mohamed Harkoun, qui était paru aux éditions d'Esclée de Proper en 2002, je crois, en 2003 peut-être, 2003, ainsi que Dialogue des cultures et résolution des conflits, sous-titré Les horizons de la paix, sous la direction de vous-même, Joseph Maïla, et de Selim Abou. Alors peut-être commençons, Joseph Maïla, par votre parcours. Vous êtes né, en quelques mots, vous êtes né en 1948 au Liban. Vous avez fait vos classes chez les jésuites avant d'étudier les sciences politiques à l'université de Beyrouth, puis à Paris où vous êtes installé. Puis en 1975, en avril 75, le conflit au Liban éclate. Et 3 ans plus tard, en 1978, donc, vous décidez de retourner au Liban. Pourquoi ce choix à un moment si difficile dans l'histoire libanaise? Qu'est-ce que vous êtes? Pourquoi ce retour au Liban, Joseph Maïla?
Pourquoi? Pour des raisons extrêmement précises et circonstanciées, à savoir que j'avais terminé ma première thèse en France et qu'un poste s'était ouvert à l'université. Et donc j'étais venu en France en 1970 faire mes études. Et donc là, je rentre à Beyrouth en 1978, où j'ai un premier poste, qui est un poste de chef de département de philosophie, professeur de philosophie, et où je deviens vice-doyen de la faculté des sciences humaines de l'université Saint-Joseph de Beyrouth.
Donc là, vous commencez finalement votre
je commence ma carrière
universitaire en tant que philosophe, finalement.
Absolument, j'ai commencé comme philosophe et je finis comme politique, en quelque sorte, ou spécialiste de sciences politiques, plutôt.
Où est-ce que vous avez obtenu, justement, ce doctorat?
En France. Puis je suis un ancien de Sciences Po, Paris, où j'ai obtenu mon diplôme en 1972, donc à l'IEP.
Compliqué de travailler au Liban dans les années 70.
C'était une époque difficile. Et j'en garde surtout une expérience d'enseignant absolument extraordinaire. Je dis extraordinaire parce que extrêmement particulière. Il y avait une période de trêve, mais il n'y a jamais eu de trêve tout à fait paisible dans ce conflit qu'on appelle des conflits longs, qui durent, qui s'étirent avec des moments d'accalmie et en même temps le conflit est là, il n'est jamais résolu. Et donc on avait des moments d'enseignement renseignement extrêmement, j'allais dire, difficile, parce que ça pouvait bombarder à n'importe quel moment, en plein milieu de cours, et puis avec des gens, avec des étudiants extrêmement attachants. C'était des personnes qui étaient déchirées dans leur vie, qui ne savaient pas quelle attitude prendre, prendre parti dans le conflit, au contraire, partir, en même temps faire des études dans une vie qui est absolument chaotique. Et j'en garde un souvenir à la fois extrêmement ému, et je me demande parfois comment j'ai fait pour pouvoir naviguer dans tout cela, parce que c'était une vie qui n'était absolument pas réglée, absolument pas programmée. On n'était jamais sûr de pouvoir faire un cours. On pouvait être à un moment donné interrompre les cours parce que des bombardements extrêmement violents avaient lieu autour de l'université, donc on était bloqué souvent dans le sous-sol, dans les parkings, et on repartait 4 ou 5 heures après quand on estimait, mais c'était une estimation un peu personnelle, chacun prenait ses risques, il y avait une espèce de trêve, que les canonniers étaient fatigués et que donc ils nous donnaient un répit d'un quart d'heure pour rentrer chez nous. Donc c'était extrêmement difficile, d'autant plus que ma famille n'était pas avec moi.
Mmh. Et vous aviez fait le choix de laisser votre famille en
voilà,
France.
Voilà, ma famille est restée en France, et moi je faisais des allées et venues, d'autant plus qu'aussi à cette époque-là, j'enseignais en Amérique du Nord, en Europe, et donc j'avais souvent des séjours programmés, assez fréquents, en dehors du Liban.
Et qu'est-ce qui vous a fait tenir alors ? C'est la famille, c'est la philosophie, c'est les deux,
À l'époque, vous voulez dire...
Oui, à l'époque. Vous disiez, je ne sais pas ce qui m'a fait tenir je me pose la question aujourd'hui.
Non, ce qui m'a fait tenir, c'était que je commençais une expérience de carrière nouvelle, de toutes les manières, et puis qu'il y avait aussi un attachement à tout ce contexte régional qui était le mien, et qui reste le mien d'une certaine manière. Et donc, il y avait tout cela qui faisait que, effectivement, il fallait naviguer dans tout cela, il fallait assumer, il fallait accepter, et en même temps ce n'était pas facile à la fois de voir des perspectives de carrière et d'avoir une vie de famille. Et ce qui finalement m'a fait lâcher prise à un moment donné, c'était que l'âge venant, les enfants étant là, une vie de famille n'était plus possible dans les conditions qui étaient celles qui présidaient alors au contexte régional moyen-oriental.
Donc ce sont les raisons pour lesquelles vous allez revenir en France en 1984.
Voilà, 1983-84, je rentre effectivement et je...
Et qu'est-ce que vous faites alors,
je ne bouge
à votre retour à Paris ?
Alors, je commence effectivement, je continue ma carrière d'enseignant, et essentiellement de l'enseignement. Hein. Et là aussi, une carrière qui va me transporter un peu partout. Ma première spécialité était une spécialité de philosophie et de philosophie allemande. J'avais fait ma première thèse sur Hegel, donc je faisais de fréquents séjours aussi en Allemagne, mais je pouvais aussi donner des cours au Canada, où j'ai continué à aller de manière assez régulière. J'ai fait des séjours de recherche aussi aux États-Unis, mais l'essentiel de ma carrière s'est déroulé en France. Je dis l'essentiel, la quasi-totalité, maintenant quand je jette un coup d'œil rétrospectif sur toutes ces années, finalement je n'ai plus jamais bougé de Paris.
C'est là que vous mettez aux sciences politiques alors ?
Voilà,
c'est à ce moment-là.
Et donc je change de fusil et à ce moment-là je me mets aux sciences politiques. Alors j'avais commencé, si vous voulez, une double carrière. Je m'étais spécialisé à la fois en sciences politiques et en philosophie. Et en philosophie, c'était de la philosophie politique. Donc j'étais pas très loin. Et donc changer de la philosophie politique à la science politique à l'état pur, si j'ose dire, ça n'a pas été très difficile pour moi. J'étais un peu dans la théorie politique, je suis resté dans ce domaine-là.
Je vous propose d'écouter un premier extrait musical. On vous a demandé de venir avec deux musiques, et la première que vous avez choisie, c'est Au Silver Moon de Dvorak par René Fleming. On écoute.
Thank you.
O. Silver Moon, Dvorak, René Fleming. Joseph Maïla, pourquoi ce choix musical?
Je ne pense pas que ce soit pour Dvorak, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais je crois que c'est essentiellement René Fleming. C'est une des plus belles voix soprano de ces dernières années. Elle a incarné des personnages absolument magnifiques, ou de manière magnifique, notamment dans tout ce qui est la musique et d'opéra de Mozart. Je pense à une superbe aussi, la comtesse, mais aussi la maréchale, mais ça c'est Richard Strauss. Et je trouve qu'absolument elle a des aigus qui se soutiennent merveilleusement. Elle a un médium qui irradie de chaleur. Et puis elle a un legato. Je sais pas quand vous avez vu un peu la diction, absolument un phrasé tout à fait intelligible. Et je trouve que c'est une voix extraordinaire. C'est ce qui m'émeut en même temps que ce drame de Roussalka de Dvorak, et qui tourne autour. Alors ce n'est pas tout à fait une chanson du matin, puisque c'est une chanson du soir, puisqu'on y parle de la lune, où cette héroïne est en train d'interroger un peu la lune pour lui demander ce que va devenir son destin, et est à la recherche de son amoureux. C'est absolument poignant. C'est en tchèque, bon, mais je ne lis pas le tchèque, mais je peux comprendre les traductions.
Joseph Maïla, en 1998, vous avez créé l'Institut de formation de la médiation et aussi le Centre de recherche sur la paix. Quelles étaient les motivations de création de ces deux établissements, Joseph Maïla?
Alors, les motivations véritablement profondes, mais on se rend compte sur le tard, au fond, de ce qui vous aiguillonne dans une vie, c'était de comprendre les conflits et d'essayer de les résoudre, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une démarche d'intelligibilité, mais aussi d'une approche de résolution des conflits.
Mais évidemment, avant de les résoudre, il faut les comprendre, bien sûr.
Il faut les comprendre. Et le Centre de recherche sur la paix, c'est précisément la compréhension des conflits. Et c'était adossé à ce qu'on appelle aujourd'hui un master à l'université, où on essayait de comprendre ce que on appelait en sciences politiques, d'un terme qui vaut ce qu'il vaut, parce qu'il n'est pas tout à fait précis, et en même temps, il indique quelque chose sur l'esprit du temps, ce qu'on appelait les nouveaux conflits. Après la chute du mur de Berlin, toute une série de conflits apparaissent dans lesquels on voit que l'élément culturel, l'élément identitaire est déterminant. Et donc on ne se bat plus tellement pour des territoires, on ne se bat pas tellement pour des enjeux économiques, mais de plus en plus, au fond, on a l'impression que dans cette humanité qui n'est plus divisée, puisque le mur n'est plus là, c'était la grande coupure à partir de la Seconde Guerre mondiale, on se rend compte que les hommes ont du mal à vivre alors que le mur est tombé. C'est un peu paradoxal. Et ce qui pourrait les rapprocher, parce que la culture, c'est la diversité, c'est la richesse, c'est les valeurs, c'est le sens qu'on peut donner à une vie, tout ce qui devrait rapprocher les hommes devient au contraire facteur d'hostilité et facteur d'antagonisme. Donc ça m'a fasciné, et je dois dire que ce centre de recherche a fonctionné un peu sur ce qu'on appelle les nouveaux conflits. Et en même temps, je voyais de plus en plus que
ce que vous appelez les nouveaux conflits, c'est également les conflits identitaires.
C'est ça, exactement. Mmh. Les conflits identitaires. Mmh. Et en même temps, il y a tout un esprit de résolution ou d'approche des conflits qui nécessite que des techniques nouvelles soient mises en avant, et donc c'est la négociation, la médiation, et donc pas tout seul, bien entendu, mais avec de grands spécialistes, avec des gens comme Stéphane Ben Simon, par exemple, on met en place ce centre de formation, l'Institut de formation à la médiation et à la négociation, l'IFOMEN, qui est devenu aujourd'hui un des plus grands centres de formation à la médiation en France, mais je dois dire qu'il n'est pas dédié uniquement à la médiation politique, qui se fait très peu, hein. Mais il y a une réflexion qui s'est menée sur ces questions-là, mais c'est de la médiation au sens la médiation judiciaire, la médiation commerciale, la médiation citoyenne, qui est importante aussi, la médiation en milieu hospitalier, en milieu scolaire.
On va y revenir, Joseph Maïla. Je vous propose d'écouter la boîte à chansons de Martin Penet. Je ne sais pas si Martin Penet a le legato de René Fleming, vous allez me dire ça après. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les chansons d'hier, il prend les chansons d'aujourd'hui autour d'un thème précis, il mélange et en sort la boîte à chansons de Martin Penet. Et le thème d'aujourd'hui, eh bien, c'est la crise.
2008. La crise s'abat sur le monde.
Terrible crise.
2009.
Elle ne semble pas vouloir s'arrêter.
Pas vouloir du tout.
C'est la crise.
La boîte à chansons est nourrie par les sites d'écoute en ligne, autant que par les vieilles partitions et les vinyles. Ce qu'on vient d'entendre, lancé par le duo Un jour de plus, je l'ai pêché sur Dailymotion. On sait que beaucoup d'artistes débutent maintenant par la toile, puis viennent les albums et les tournées. Mais à peine ont-ils commencé à réussir qu'ils sont parodiés, comme l'étaient autrefois les auteurs de chansons à succès imprimées Faubourg Saint-Martin. Ainsi Grégoire, tout juste tombé du net, est revu et corrigé par Vidoc92 sur YouTube.
Merci Wall Street et merci l'Amérique. Ma femme me quitte parce que je n'ai plus de fric. J'ai vendu ma baraque à Obama. Maintenant je dors dans ma Skoda Fabia. Cette nuit je me suis fait taper mes roues. J'ai fait tomber mes clés dans les égouts. J'ai même rêvé que le vieux John McCain. Et je peux vous dire que mes fesses s'en souviennent. Jean-Pierre Pernaut s'est remis au Ricard. PPDA est devenu smicard. Et toi Christine, tu as baissé la garde. Si je te croise je te...
Lorsque la machine déraille, les wagons de première sont entraînés avant les autres. C'est ce que la chanson a toujours pris plaisir à observer. Un extrait de la revue « À toile en neuf », qui suivit le jeudi noir d'octobre 1929, parole de Pierre Costet, est interprété spécialement pour nous par Éric Malguire avec Benoît Urbain au piano.
Tout le monde souffre évidemment de cette crise sans précédent qui sévit sur la terre entière. Du financier jusqu'au Marlou, de Barcelone à Fucheu, résolument on se la serre. Les riches serrent leurs millions, les pauvres se serrent le bidon. On se lamente, on désespère. Même parmi les gens bien nés, on ne parle plus que de purée. Assez fort triste en vérité. On se la serre, la chose est sûre.
Depuis 1929, les signaux d'alarme ne sont pas davantage entendus. Mais les mécanismes de protection fonctionnent mieux, et surtout pour ceux qui volent en altitude.
Adieu les traders, adieu jogging, les briefings à l'heure. Breaking, ouvriers, riez. Adieu les blouses grises en Chine, l'usine délocalise les coûts. On dégringole les banques, on peut rigoler. La boîte à coller, mes pouces, on va se la couler. Les douces, la pilule, on va se l'adorer. J'ai le parachute, doré.
Vous avez reconnu la récente chanson, devenue tout de suite fameuse, d'Alain Souchon. En 1934, alors que la récession ne cessait de se creuser, Albert Préjean disait déjà « Quand on tient le haut bout, on tient le bon bout ».
La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au pépé chanter joyeux, tra-la-la-la-la, et répéter encore. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur.
Voilà, c'était la boîte à chansons de Martin Penney, une chronique que vous pouvez écouter, réécouter, podcaster sur le site internet des Matins d'été, Joseph Maïla, et puis autre rendez-vous culturel dans ces Matins d'été. Vers 7h50, ce sera Mauriac croque la télé, le feuilleton de l'été de Meryl Moneghetti. Aux alentours de 8h35, ce sera le journal de la culture présenté par Raphaël Le Pen, après le journal de la rédaction à 7h30. Et puis enfin, 8h55, c'est le traditionnel lexique de l'actuel de Pierre-Marc Debiasi. Retour avec vous, Joseph Maïla. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques, docteur en philosophie, mais aussi docteur en sciences sociales. Vous êtes spécialiste de l'islam, de la sociologie des conflits. Et la sociologie des conflits, justement, parlons-en, Joseph Maïla. Vous avez participé à un colloque tenu à Beyrouth en octobre 2003 sur le thème du dialogue des cultures et la résolution des conflits. Et vous entamiez votre présentation en expliquant la difficulté d'aborder ces conflits identitaires, ces nouveaux conflits, comme vous le disiez tout à l'heure, et particulièrement dans notre monde, qui est évidemment un monde globalisé. Et vous disiez, traiter des conflits identitaires à l'âge de la mondialisation, c'est d'emblée se saisir de phénomènes se déroulant, en apparence au moins, à contre-courant de l'histoire dominante. Et vous poursuivez, de fait, sur le spectre très large des tensions contemporaines, les conflits identitaires se détachent, de fait, comme des cas à part, une catégorie distincte, des configurations dont les caractéristiques semblent défier la dynamique du temps présent, Joseph Maillat.
Oui, effectivement, c'est le paradoxe des conflits identitaires. Il faut rappeler cet esprit, ce Zeitgeist, cet esprit de l'époque, mais qui n'est pas très loin finalement. C'est une époque où, comme je vous disais tout à l'heure, le mur tombe, on s'attend à un rapprochement, et en réalité, on voit apparaître des conflits qui sont très vite taxés de conflits anciens ou de réminiscences, de retour, de clivages anciens, de distinctions anciennes qui sont basées sur le sang, sur ce qu'on appelle aujourd'hui d'un terme rapide, hein, la race, sur l'identité ethnique, sur l'identité tribale. Et on vit une époque de mondialisation où on pense que toutes ces distinctions n'ont pas lieu d'être, et en tout cas qu'elles sont vouées à une disparition rapide, puisqu'il y a une culture englobante, culture mondialisée précisément, qui est censée broyer tout cela et créer une nouvelle culture universelle. Et en face de cela, on voit apparaître des conflits qui sont des conflits absolument incroyables. Je veux dire, pour rester en Europe, c'est le conflit yougoslave des années 92-94, qui est extrêmement dur et qui va perdurer, qui d'une certaine manière bon se calme sur un plan des opérations militaires, mais qui n'est toujours pas résolu dans la construction politique des entités qui se mettent en place et des États qui se mettent en place dans le cadre de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Mais souvenez-vous aussi, en 94, vous avez ce massacre absolument épouvantable qui est celui du Rwanda. Mmh. Et en 3 ou 4 semaines, on a 800 000 morts. 800 000 morts en 3-4 semaines. C'est un conflit qui prend tout le monde de court. Et c'est un conflit où la technologie ne joue pas un grand rôle, puisque les massacres se font à la machette. Et tout cela interpelle, au fond. Est-ce que cette distinction Hutu-Tutsi, mais qu'on va retrouver dans d'autres conflits sous d'autres dénominations, sous d'autres clivages, qu'ils soient religieux, qu'ils soient ethniques, en Irlande, le conflit, on n'est pas sorti en Irlande du Nord du conflit à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, dans cette époque où on se projette facilement sur un horizon universel, sur un horizon mondial, qu'est-ce que ça veut dire de s'en tenir à ce que Freud appelait sa petite différence, à vouloir absolument se distinguer par sa communauté, sa langue, sa religion, souvent dans des territoires qui sont je dirais pas des mouchoirs de poche, mais qui sont pas très grands, et où chacun se dispute alors que l'horizon est le plus large possible à ce moment-là.
Alors la question qui vient maintenant, Joseph Maillat, c'est bien sûr comment est-ce qu'on fait pour comprendre ce type de conflit? Comment est-ce qu'on fait pour les intégrer dans les rapports internationaux, Joseph Maillat?
Oui, alors on les comprend pour essayer de les résoudre, mais on les comprend comme de plusieurs manières. Hein. Il y a plusieurs approches. Il y a d'abord l'échec de la construction d'une société politique intégrée. Lorsque vous n'avez pas la catégorie de citoyen qui apparaît, effectivement, vous pouvez vous rabattre, si l'on peut dire, sur des distinctions qui sont beaucoup plus étroites.
Hein. C'est-à-dire
lorsqu'un État échoue à se construire, n'est-ce pas, lorsque des institutions ont de la difficulté à se mettre en place. Là où tout le monde ne se reconnaît pas dans une même culture citoyenne qui ouvre à tout le monde les mêmes droits. Effectivement, défendre son petit territoire, son petit morceau d'identité, apparaît comme l'échec d'une construction dans laquelle, au fond, il faut aller au-delà des différences de la vie quotidienne, familiale, politique, régionale, locale, pour se dire citoyen, comme en France, par exemple, où on ne met pas en avant une origine, une localité, une région, mais on se reconnaît dans la communauté des citoyens. Alors, quand cette communauté des citoyens n'existe pas, il y a la communauté tout court. Et on est dans du communautarisme extrêmement violent, où on met en avant sa petite identité, avant de, au fond, de mettre en avant ce qui fait des éléments, ce qui est un élément de partage et de reconnaissance avec tous les autres. Quand vous mettez l'accent sur votre différence, votre petite différence, vous oubliez au fond qu'il y a une grande appartenance, une grande identité commune qui vous relie, qui relie les hommes les uns les autres et les femmes à ce qui n'est pas leur marque distinctive d'origine, de naissance, mais qui va au-delà, à savoir la participation à une société plus large, à un bien commun plus large, et non pas défendre ses intérêts locaux, ses identités locales et particulières. Donc c'est l'échec d'une construction politique. Et quand on sait que dans l'histoire du monde, les États...
D'où vient cet échec?
Alors, il y a tout un travail qui s'est fait, qui continue à se faire, au fond, sur la mise en place des États qui surgissent après l'indépendance. Vous savez que le monde, dans la première moitié du XXe siècle, comprend une quarantaine d'États. L'ancêtre des Nations Unies, la SDN, bon, il y avait 40 États, une 35 États qui existaient à ce moment-là. À partir de 1945, à partir de la création de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, vous avez aujourd'hui, on est passé à 200 États. Comment on passe par ce phénomène qui est peut-être le plus important pour les politologues? S'il fallait caractériser par exemple le XXe siècle, moi je dirais qu'au fond c'est une acclimatation à la forme étatique à l'échelle mondiale. On passe de 40 États en 1945 à 200 États aujourd'hui. On multiplie par 4 ou par 5 ou par 6 le nombre des États qui existent.
Et dans le même temps on a un phénomène de mondialisation.
On a un phénomène de mondialisation. Les États ont mis des années, des siècles, des siècles. Regardez un peu comment se constitue la France à partir de Louis XI dans l'histoire, et vous avez des États qui, du jour au lendemain, se constituent. Effectivement, la fragilité de la construction est là.
Nous sommes avec Joseph Maïla. Vous êtes sur France Culture, il est 7h30. Le journal, Nicolas Baliou, rebonjour.
Rebonjour Florian, bonjour à tous. Quelle est la légitimité de Mahmoud Ahmadinejad? Question à laquelle il pourrait être facile de répondre. La légitimité, c'est celle des urnes, et il n'en a aucune. Voilà la réponse si l'on est opposant. Mais si l'on est partisan, on peut reprendre les mots d'un important journal conservateur iranien ce matin. Alors sa légitimité est divine et la procédure d'intronisation est sacrée. Mahmoud Ahmadinejad prête serment en ce moment même, en l'absence de ses prédécesseurs et des ambassadeurs, mais soutenu par le guide suprême à divers titres. Mahmoud Ahmadinejad, président controversé, messianique et populiste, c'est Christian Chesneau qui nous dresse son portrait.
Ses partisans lui reconnaissent une légitimité divine. La réélection d'Ahmadinejad est même, selon l'influent journal conservateur Kayan, une procédure déterminante et sacrée. Le président iranien cultive une double image, celle d'un homme proche du peuple, un chef d'État qui porte des costumes vieillots et élimés et qui vit dans un modeste appartement de la banlieue de Téhéran. Pendant la campagne électorale, les murs des grandes villes iraniennes étaient couverts d'affiches, le représentant embrassant la main d'un vieillard, portant un bébé dans ses bras ou encore jouant au football. C'est aussi un président messianique. Dans ses discours, Ahmadinejad multiplie les références à l'imminence du retour du Mahdi, l'imam caché qui, dans la tradition chiite, annonce la victoire finale de l'islam sur les mécréants. Le président iranien perçoit le monde extérieur comme peuplé d'ennemis, un monde de complots fomentés de l'étranger qui visent à affaiblir la République islamique et le monde musulman. Ahmadinejad est même convaincu que les manifestations de l'opposition iranienne sont en fait téléguidées depuis Londres et Washington.
Les deux journalistes américaines emprisonnés en Corée du Nord ont été graciés. Elles reviennent aux États-Unis dans l'avion de Bill Clinton. Laura Ling et Una Lee avaient été arrêtées le 17 mars dernier. Elles avaient été condamnées à 12 ans de travaux forcés pour avoir franchi la frontière sans autorisation. Selon un haut responsable de l'administration américaine, les dirigeants nord-coréens auraient accepté que cette négociation ne soit pas liée au dossier du nucléaire. Sanglante fusillade ce matin dans une salle de gym près de Pittsburgh aux États-Unis. Plusieurs personnes sont mortes et une quinzaine d'autres blessées. Un homme a ouvert le feu dans cette salle de gymnastique à une quinzaine de reprises. La secrétaire d'État à l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, dit espérer une solution aujourd'hui, mais le climat social reste tendu en Nouvelle-Calédonie après les affrontements entre forces de l'ordre et les manifestants. Le syndicat indépendantiste USTKE est en grève générale depuis plus d'une semaine et bloque les principales zones industrielles et commerciales. L'économie est donc touchée, une prise d'otage de l'île selon les chefs d'entreprise locaux. Olivier Besancenot, lui, a apporté son soutien à l'USTKE en condamnant les violences policières. Le gouvernement calédonien, lui, tente de dénouer la crise qui a pour origine la condamnation à un an de prison ferme du président du syndicat, Germain Treille.
Les accords de Matignon puis de Nouméa, signés entre l'État et ses partenaires calédoniens, indépendantistes et loyalistes, prévoient le développement pour tous, Kanak, Caldoche, Européens. Cependant, la communauté Kanak se sent abandonnée, chômage, désœuvrement. L'USTKE cherche donc à politiser le conflit, en témoignent les propos d'un des responsables du syndicat.
On a l'impression que ça nous est réservé à nous, parce que nous sommes le seul syndicat engagé politiquement pour l'émancipation et la décolonisation de notre pays.
Philippe Gomes, le président du gouvernement calédonien, tente de renouer le dialogue avec l'USTKE. Il assure que ce conflit n'est pas comparable aux affrontements communautaires des années 80.
S'il y avait un ressenti communautaire, c'est pas 300 à 400 militants qui auraient dans les rues en province sud, c'est 3 à 4 000 ou 30 à 40 000. Ça reste un conflit essentiellement syndical et c'est tant mieux.
L'économie du territoire est paralysée depuis plus d'une semaine. Cette jeune femme habite dans le centre-ville de Nouméa.
C'est pas facile hein, pour nous.
Et les magasins, ils sont vides ?
Il y a beaucoup de choses vides dans les rayons. Il n'y a plus de pain du tout. Ça ne peut pas durer.
L'USTKE reste mobilisé officiellement pour des raisons syndicales, mais l'action politique semble avoir pris le dessus, avec en ligne de mire le référendum d'autodétermination prévu entre 2014 et 2018.
Selon le quotidien Les Échos ce matin, une partie des crédits dédiés au plan de relance serait redéployée vers 42 opérations nouvelles, au total 100 millions d'euros. Certains projets d'investissement sont revus à la baisse, voire annulés, car pas réalisables avant la fin de l'année. Le gouvernement cherche à promouvoir les chantiers qui peuvent rapidement créer de l'activité et de l'emploi. C'est le patrimoine qui devrait bénéficier des crédits pour les nouveaux chantiers. Le temps d'aujourd'hui devrait ressembler à celui d'hier, en plus chaud et en plus beau, excepté en Bretagne et en Basse-Normandie. Les températures maximales iront de 19 degrés dans l'ouest à 36 dans le sud-ouest et les Bouches-du-Rhône. 7h35, on retrouve Florian Delorme pour les matins d'été.
Merci Nicolas Ballu. Petit aperçu des programmes à suivre après le journal de la rédaction à 9h05 et jusqu'à 12h30 sur France Culture avec Duras, une grande traversée de l'été produite par Laure Adler, réalisée par Jean-Claude Loiseau, des archives, des débats, des documentaires qui vous emmènent toute cette semaine sur les traces de Marguerite Duras, du Cambodge au Canada, de la Suède au Vietnam. Redécouvrez l'œuvre de Marguerite Duras, vue d'ailleurs au programme aujourd'hui, Duras la radicale. À 14h, artistes, intellectuels et passionnés en tout domaine se racontent dans Le Bon Plaisir, une série de rediffusion d'émissions de France Culture, produite par Philippe Garbi, réalisée par Mydia Portis-Guérin. Ce mercredi, portrait de Stéphane Hessel, diplomate et ancien résistant français. Enfin, de 20h30 à 22h, place au grand débat contemporain. Ne manquez pas ces colloques, ces conférences diffusées tout l'été sur France Culture. Rendez-vous ce soir pour la dernière table ronde des rencontres d'Averroès, animée par Thierry Fabre. Mathias Hénard, Mohamed Tozzi et Nadia Yassine débattront sur le thème entre djihadisme et occidentalisme, nouvel affrontement des blocs ou renaissance méditerranéenne. Revenons avec notre invité Joseph Maïla, professeur de sciences politiques, docteur en philosophie, docteur en sciences sociales. On parlait avec vous avant le journal des nouveaux conflits, de ces conflits identitaires. Évidemment, la question difficile, éminemment difficile, c'est celle de la sortie de ces conflits. Comment est-ce qu'on fait pour sortir des conflits identitaires? Quelles sont les perspectives de dépassement des violences que l'on y rencontre, Joseph Maïla?
Oui, une question redoutable, et je pense qu'il serait à la fois prétentieux et caricatural de vous dire en une formule comment on sort de ces conflits qui sont essentiellement contextualisés et qu'il faut remettre en tout cas dans leur contexte.
Et peut-être essayons d'explorer quelques pistes.
Voilà, donc s'il fallait tenter véritablement la caricature et le raccourci, je dirais trois choses ou trois éléments de sortie de crise, je dirais, dans ces conflits, réconciliation, partage et reconstruction. Réconciliation parce que ce sont des conflits identitaires, c'est une guerre civile. Donc c'est la pire des guerres, celle qui oppose au sein d'un même pays des citoyens ou des ex-citoyens, des gens qui sont supposés se reconnaître dans un même destin, dans un même avenir, dans les mêmes institutions, dans les mêmes valeurs et qui se sont entretués. Donc c'est extrêmement difficile de revenir là-dessus, mais la réconciliation reste la voie obligée en quelque sorte, mais elle est très lente, elle ne se fait pas du jour au lendemain, elle a besoin que la vérité se fasse, un peu comme si aussi ce qui s'est fait en Afrique du Sud, bon, qui est un peu le parangon de ce qui se fera ailleurs. On se réconcilie, oui, mais pas sur une base de cachotterie, pas en s'entendant pour ne plus parler du passé, mais au contraire, on le fait ressurgir, non pas pour le ressasser, mais pour voir ce qui n'a pas marché. Hein, parce que ce qui le plus grave, c'est le retour du refoulé. Si tout cela est enfoui dans une mémoire obscure, on se condamne à voir revenir le passé à toute vitesse.
Vous disiez réconciliation, partage, alors, reconstruction. Partage, oui. Quel partage justement?
Alors précisément, c'est là où c'est intéressant, c'est là où la médiation peut entrer en jeu, là où il faut être véritablement inventif et créatif. Comment se partager le pouvoir? Alors on peut se partager une frontière, on peut se partager un champ de gaz ou de pétrole, mais comment partager, comment faire circuler le pouvoir quand on se présente au fond sous des dénominations qui sont singulières? Comment faire un partage entre Hutu et Tutsi, pour revenir à cette idée? Comment se partager le pouvoir en Bosnie-Herzégovine, entre Croates, entre Bosniaques et entre Serbes? Donc il y a des aménagements qui sont des aménagements constitutionnels. Regardez ce qui se passe en Irak, qui d'une certaine manière met en scène une conflictualité où des Kurdes, des chiites irakiens et des sunnites irakiens et des Kurdes irakiens aussi, donc ont à apprendre à vivre ensemble, mais aussi faire en sorte que l'une des communautés n'accapare pas l'essentiel de la puissance et de la puissance publique. Alors, trouver des modalités de répartir le pouvoir avec des contre-pouvoirs, faire en sorte que dans le gouvernement tout le monde soit représenté, que le parlement soit élu avec des quotas représentatifs, tout en sachant que l'idéal n'est pas là. L'idéal serait véritablement d'aller au-delà de ces différences. Mais disons qu'il faut prendre les conflits dans le temps. Un conflit, c'est une blessure. Et une blessure ne se surmonte pas du jour au lendemain. Donc il faut accompagner le temps, être le temps de la meilleure manière possible. Et donc dans ces transitions, il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup de psychologie, beaucoup de ruptures, beaucoup de rechutes. Et c'est cela qui est à la fois fascinant et encourageant sur le dessin de l'humanité.
Coltrane, Too Young to Go Steady, Joseph Maïla, votre deuxième choix musical.
Oui, parce que Coltrane est absolument... je sais pas, pour moi, il parle beaucoup, il parle dans l'histoire du jazz autant que Miles Davis, autant que Charlie Parker. Et là, vous avez une période absolument merveilleuse de Coltrane qui se situe après la rupture avec Parker. C'est le quartet, hein, de Coltrane avec Jimmy Garrison à la basse et puis McCoy Tyner, que vous aurez reconnu au piano. On a entendu un petit peu McCoy qui continue une carrière à lui. Lui et Jones, Elvin Jones à la batterie, et ça a été une période magique. Et c'est extrait d'un album qui s'appelle Ballade, hein. Et j'ai pensé qu'effectivement, avec les conflits identitaires, cette musique apaisante serait la bienvenue.
C'est le cas, Joseph Maïla. Joseph Maïla, le Quai d'Orsay s'est doté depuis le 1er juin dernier d'un pôle religion qui est installé au sein de la direction de la prospective du ministère des Affaires étrangères. Vous avez pris la direction vous-même de ce pôle, donc il faut rappeler que c'est une structure tout à fait inédite en France. C'est la première fois qu'on met en place ce genre de structure. Quelles sont les missions de ce pôle, Joseph Maïla?
Alors, comme vous l'avez dit, mais c'est bon de le rappeler, ce pôle qui a été voulu par Bernard Kouchner, notre ministre des Affaires étrangères, se situe dans la direction de la prospective. Et donc, il s'agit véritablement d'aider à la prise de décision, d'aider les diplomates à voir les grandes tendances, les grandes orientations, les grandes directions. Nous situons en quelque sorte dans l'anticipation. Nous sommes dans une attitude d'observation. Alors, ce pôle n'existe pas, on est en train de le monter, il existe depuis le 1er juin, mais ces structures sont en train de se mettre en place. Et les missions, j'allais dire, c'est une triple mission. Une mission d'abord de prendre en compte dans l'analyse qui est faite de notre monde aujourd'hui, une dimension qui était à la fois ignorée, j'allais dire, des sciences politiques en général. La religion n'est pas quelque chose qu'on étudie à l'université comme constitutif des intérêts des grandes nations. On met l'accent plutôt sur les intérêts économiques, sur les intérêts de puissance. On compte les canons, les avions, la production économique. Et on dit, voilà, un État, au fond, c'est important parce qu'on a telle richesse en ressources ou tel potentiel militaire. Et on ne prend pas en compte, et je crois que c'est véritablement le coup de génie de Bernard Kouchner, de ce point de vue, de se dire, mais au fond, il y a aussi des paramètres qui sont de nouveaux paramètres. Aujourd'hui, on peut rien faire si on n'a pas compris qu'il y a une crise économique en cours, si on ne comprend pas que les pandémies sont véritablement un véritable dysfonctionnement dans les rapports internationaux, qu'elles introduisent une nouveauté absolument radicale.
Mais en quoi est-ce que ce pôle religion va aider justement à comprendre à la fois la crise, à la fois les pandémies?
Ben écoutez, non. Alors, c'est les crises, les pandémies sont des éléments à côté de cet élément religion. Et l'élément religion, au fond, est à prendre en considération comme on prend d'autres éléments nouveaux comme la crise financière.
Est-ce qu'il y a des diplomates dans ce pôle religion?
Écoutez, c'est un pôle, bien entendu. Il y a un diplomate qui est un diplomate important, qui est le chargé des affaires religieuses, qui a existé depuis 1920-1921, qui lui est en charge des contacts avec les autorités religieuses constituées. Mais à l'intérieur de ce pôle, si vous voulez, il y a le côté diplomatique, la diplomatie active, si l'on peut dire, et la diplomatie est toujours active, et puis un côté d'études, de recherche, d'anticipation, qui prend en compte le rôle de la religion, précisément, par exemple, dans les sorties de crise. Si vous jetez un coup d'œil sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, une crise chinoise, la crise des Ouïghours en Chine, dans le Turkestan chinois, bon, en quoi la revendication économique s'articule, au fond, sur une identité religieuse? Pourquoi mettre en avant ce statut de musulman chinois? On parlait de l'Irak tout à l'heure, les distinctions. On parle aussi d'une sortie de crise en Afghanistan, et on nous semble à la recherche de talibans d'immodérés. Alors, comment on fait la distinction? À partir de quels éléments, entre autres, hein, de quelle sensibilité religieuse on peut se prévaloir pour essayer de peser sur la sortie de crise? La période qui s'est achevée avec l'élection de Barack Obama, donc la période George Bush, avait été dominée par ce qu'on appelait les néoconservateurs, où on disait, mais attendez, c'est des néoconservateurs, mais qui s'articulent, qui s'appuient sur les églises évangéliques. Si on ne comprend pas la relation entre néoconservatisme et évangélisme, etc., on s'interdit une compréhension des grands mouvements contemporains.
Mais est-ce que ce type de structure existe dans d'autres pays? Alors, vous comprenez qu'évidemment, il y a des personnes qui disent, voilà, on est dans un pays laïque, pourquoi un pôle religion au ministère des Affaires étrangères? Vous comprenez les Français qui s'interrogent?
Absolument, je comprends parfaitement. Nous sommes dans un pays laïque, nous avons une culture laïque à laquelle il faut absolument rester attaché en tant que principe de régulation des institutions. Mais là, il ne s'agit pas d'un problème de laïcité. Il s'agit de prendre en compte un élément constitutif, en quelque sorte d'avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe dans ce domaine et de dire, tiens, supposez un diplomate qui va sur le terrain, qui est engagé, on en parlait tout à l'heure, dans une opération de négociation et de médiation. Prenez le conflit du Sri Lanka, n'est-ce pas, bouddhiste, hindou, entre les Tamouls et les Singhalais. Comment voulez-vous comprendre quelque chose si vous n'avez pas perçu la différence entre sunnites, chiites, entre Tamouls et non-Tamouls dans ce conflit-là? Comment comprendre aussi ce qui se passe dans des émeutes à caractère un peu identitaire, fondamentaliste en Inde, entre les Indiens
et les Indiens
hindous et les Indiens musulmans.
J'entends bien que c'est évidemment crucial de comprendre ces questions-là, mais est-ce que pour autant, est-ce que c'était nécessaire de constituer ce pôle? On peut très bien essayer de comprendre les mécanismes religieux qui se jouent dans ces fameux conflits dont on parle depuis tout à l'heure, et en même temps, a-t-on vraiment besoin de créer ce type de pôle? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que ça vous semblait indispensable? Est-ce que ça manquait au ministère des Affaires étrangères?
Écoutez, moi, ça me paraît absolument fondamental. Comment voulez-vous prendre en considération tout cela si vous ne l'observez pas, si vous ne l'étudiez pas, si vous ne sensibilisez pas les diplomates à ces questions-là, s'il n'y a pas des éléments constitutifs, une documentation? Je vais vraiment aux éléments de base ou basiques. Si vous ne savez pas de quoi on parle, comment voulez-vous comprendre les rapports internationaux? Donc nous sommes dans des cellules d'études, de projection, d'alerte, d'anticipation sur les grands mouvements. Il ne s'agit pas de se prononcer sur telle ou telle religion ou d'intervenir auprès de telle ou telle autorité religieuse. C'est pas du tout. Donc la laïcité de ce point de vue, si vous aviez quelques soucis là-dessus, est tout à fait respectée. Il s'agit simplement d'intégrer des éléments, des données objectives, des connaissances, pour mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et je vais vous dire une chose, m'avait posé la question là tout de suite, d'autres départements, d'autres ministères des Affaires étrangères ont leurs petites cellules. La nouveauté, c'est qu'effectivement en France,
ou par exemple,
il y a 2 semaines, le président Obama a créé au niveau du State Department, ce qui est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères en France, a nommé une représentante ou en quelque sorte une personne dans l'administration qui va s'intéresser aux rapports avec le monde musulman. Donc il y a aujourd'hui tout ce qu'on appelle le dialogue des civilisations, le dialogue interreligieux auquel on accorde beaucoup d'importance.
C'est aussi un outil pour le dialogue interreligieux.
C'est fondamental. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des idées qui sont dans l'air, qui disent au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une espèce de G8 des religions, comment il y a des réunions au sommet entre des chefs d'État sur des questions économiques, on vient d'en sortir d'une en Italie, pourquoi il n'y aurait pas au fond une concertation qui se ferait entre les autorités religieuse mondiale sur ces questions-là. Comment faire passer, en quelque sorte, apaiser les tensions identitaires? Est-ce que les religieux n'ont pas un rôle à jouer dans la promotion de la tolérance, de la compréhension? On parle beaucoup de l'alliance des civilisations, qui a été faite dans le cadre onusien. Qu'est-ce que nous avons à dire là-dessus? Il faut intervenir, il faut connaître. Il faut maîtriser un peu ces connaissances et puis les intégrer dans une politique d'anticipation et aider en quelque sorte, éclairer les diplomates en les dotant aussi, mais c'est le Quai d'Orsay est une maison où les diplomates ont par définition une culture très vaste, ils ont passé par des concours, mais disons que cette culture religieuse n'est plus dans l'esprit du temps, et là il s'agit en quelque sorte
de la remettre au goût du jour, de
sensibiliser, d'aller plus loin sur des questions qui sont extrêmement techniques, extrêmement précises.
Joseph Maïla, je vous propose une nouvelle chronique. C'est un petit cadeau pour vous, Joseph Maïla. Je suis sûr que ça va vous plaire. On va retrouver Moria Croque, la télé. C'est donc le feuilleton de l'été de Mérine Monoghetti. Elle nous fait redécouvrir chaque jour les téléchroniques de François Mauriac, grâce au concours de Jean-Noël Jeannet qui prête sa voix à François Mauriac pour l'occasion. Cette semaine, la télégénie et les beautés de hasard. Aujourd'hui, des hommes et des bêtes.
Mauriac croque la télé, un feuilleton d'été de Meryl Moneghetti. Jean-Noël Jeannenet prête sa voix à François Mauriac. Bonjour.